Chapitre 2. Le lendemain matin, pendant toute la matinée, j'eus la migraine, et c'est à peine si je pus faire quelques mouvements. Mais ce malaise corporel n'était pas ce qui me préoccupait le plus. J'étais honteux de ma conduite et dépité contre moi-même. Cœur faible, me répétais-je. Oui, Élis a raison. Pourquoi m'effrayer? Pourquoi ne pas profiter de l'occasion? J'aurais pu voir César en personne, et la peur m'a fait perdre la tête. J'ai piaillé, et je me suis enfin enfui comme un enfant à la vue des verges. Quant à Razine, c'était une autre affaire. En ma qualité de gentilhomme et de propriétaire. Ah, mais là encore, pourquoi avoir peur? Cœur faible, oui, cœur faible. Tout cela, d'ailleurs, ne serait-ce pas en rêve que je l'aurais vu? Me demandai-je à la fin. J'appelai ma femme de charge. « Marfa, à quelle heure me suis-je couché hier ?»« Tu te rappelles-tu ?»« Dame, qui pourrait te le dire, mon père nourricier ?»« Un peu tard, je crois bien. Quand il a commencé à faire noir, tu es sorti de la maison et dans ta chambre à coucher, tu tapais de tes talons de botte jusqu'à après minuit. » Vers le matin, oui. Et voilà 2 jours que cela dure. Est-ce que t'as du chagrin? Bon, ces courses, pensais-je, ces courses en l'air, le moyen d'en douter maintenant. Marfa, quelle mine ai-je aujourd'hui? Lui demandai-je brusquement. Quelle mine, pardon, que je te regarde? Oh, t'as les joues un petit peu creuses, oui, et t'es pâle, mon père nourricier. Tiens, oh, t'es jaune comme cire. Un peu décontenancé, je renvoyai Marfa. Mais j'y mourrais ou j'en perdrais l'esprit, me disais-je, méditant près de ma fenêtre. Oh, il faut que cela finisse, c'est terrible. Le cœur me bat si étrangement. Quand je vole, il me semble qu'on me boive le sang de mon cœur ou qu'il se distille comme le bouleau en été laisse couler sa sève quand il a été entamé par la hache. Tout cela n'est pas naturel. Et Élis, elle joue avec moi comme un chat avec une souris, et pourtant elle n'a pas l'air de me vouloir du mal. Allons, c'est la dernière fois que je me fie à elle. Je garderai tant que je pourrai. Et, mais si elle buvait mon sang, oh, quelle horreur! D'ailleurs, des courses si rapides doivent faire du mal. On dit qu'en Angleterre, il est défendu sur les railways de faire plus de 120 verstes à l'heure. Je méditai longtemps, mais à 10 heures du soir, j'étais auprès du vieux chêne. La nuit était sombre, triste et froide. L'air sentait la pluie. À ma grande surprise, je ne trouvais personne sous le chêne. Je me promenais quelque temps aux environs. J'allai jusqu'au bois, je revins, essayant toujours de pénétrer la profondeur des ténèbres. Personne. J'attendis assez longtemps, puis j'appelai Élis à plusieurs reprises, élevant toujours la voix de plus en plus, mais toujours inutilement. J'étais triste, presque affligé. Déjà, je ne pensais plus au danger qui tout à l'heure me préoccupait. Je ne pouvais me faire à l'idée qu'Élis ne reviendrait plus. « Élis, Élis, viens donc, ne viendras-tu pas ? » criai-je une dernière fois. Un corbeau, éveillé par ma voix, s'élança tout à coup de la cime d'un arbre voisin, se débattant à grand bruit au milieu des branchages. Élis ne paraissait pas. La tête baissée, je m'en retournai à la maison. J'étais déjà sur la chaussée de l'étang et la lumière qui sortait de la fenêtre de ma chambre tantôt brillait en plein, tantôt disparaissait interceptée par le feuillage de mes pommiers. Elle me semblait l'œil d'un gardien chargé de veiller sur moi. Tout à coup, une sorte de petit frôlement aigu dans l'air se fit entendre derrière moi. Et aussitôt, je me sentis soulevé, absolument comme une caille est emportée, troussée par un épervier. C'était Élis. Sa joue touchait la mienne et je sentais son bras m'enlaçant comme un anneau étroit. Elle parla, et sa voix toujours contenue comme un petit murmure, en entrant dans mon oreille, me fit l'effet d'un souffle glacé. « C'est moi !» dit-elle. J'éprouvais tout à la fois du plaisir et de la terreur. Nous volions à un peu de distance du sol. « Mais tu ne voulais donc pas venir aujourd'hui ?» lui demandai-je. « Mais tu en étais fâché. Tu m'aimes donc ? Oh, mais tu es à moi !» Ces derniers mots me troublèrent. Oh, je ne savais que lui dire. « On m'a retenu, » poursuivit-elle. « Il me gardait. Mais qui donc a le pouvoir de te retenir ?»« Où veux-tu aller ?» me demanda Élise, sans répondre plus que d'habitude à ma question. « Porte-moi en Italie, au bord du lac, tu sais. » Elle secoua la tête pour dire non. En ce moment, pour la première fois, je remarquai que son visage n'était plus transparent. On eût dit qu'une faible rougeur s'était étendue sur sa blancheur de lait. Je considérai ses yeux, et son regard me frappa désagréablement. Il y avait au fond de ses yeux un mouvement sinistre, presque imperceptible, mais incessant, qui faisait penser à un serpent engourdi que le soleil commence à réchauffer. « Élise, m'écriai-je, mais qui es-tu? Dis-le-moi, je t'en supplie !» Elle haussa les épaules. Oh, j'étais piqué et je voulus lui donner une leçon. L'idée me vint de lui demander de me mener à Paris. Là, pensais-je, elle aura bien l'occasion d'avoir de la jalousie. « Élise, lui dis-je, tu n'as pas peur des grandes villes? Ou de Paris, par exemple? Non ?»« Non !» Ni des endroits fort éclairés comme les boulevards. Ce n'est pas la lumière du jour. Très bien. Alors, porte-moi au boulevard des Italiens. Elle jeta sur ma tête un bout de sa longue manche. Aussitôt, je me trouvai au milieu de ténèbres blanchâtres, imprégnées d'une odeur de pavot. Tout disparut à la fois, la lumière, le bruit et presque la conscience. À peine sentais-je que je vivais encore et cette espèce d'anéantissement n'était pas sans douceur. Tout d'un coup, le brouillard se dissipa. Élise retirait sa manche de dessus ma tête et je voyais au-dessous de moi un grand nombre de vastes édifices, beaucoup de lumière et de mouvement. J'étais à Paris. J'étais déjà allé à Paris et je reconnus aussitôt l'endroit où Élise m'avait transporté. C'était le jardin des Tuileries avec ses vieux marronniers d'Inde, ses grilles de fer, ses fossés de forteresses et ses zouaves en faction semblables à des bêtes fauves. Nous passâmes devant le palais, devant Saint-Roch, et nous nous arrêtâmes au boulevard des Italiens. Une foule de gens, jeunes et vieux, ouvriers en blouse, femmes en toilette, se pressaient sur les trottoirs. Des restaurants et des cafés dorés à outrance étincelaient de mille feux. Omnibus, fiacres, voitures de toute espèce et de toute apparence se croisaient sur la chaussée. Tout cela brillait, grouillait à ne pas savoir où porter les yeux. Pourtant, chose étrange, je n'étais nullement tenté de quitter mon observatoire aérien, si haut et si pur, pour me mêler à cette fourmilière humaine. Je sentais monter jusqu'à moi une vapeur rouge, chaude, lourde et d'odeur douteuse. Trop de vies humaines s'étaient entassées dans cette cohue. J'hésitais quand, aigre et âpre comme un grincement de ferraille, la voix d'une lorette s'éleva jusqu'à moi. Cette voix effrontée me fit l'effet d'une piqûre de vermine. Alors je me représentais un visage de pierre, plâme, mafié. Une vraie mine parisienne, des yeux d'usurier, du blanc, du rouge, des cheveux crêpés, un bouquet criard de fleurs d'artificiel sous un chapeau exigu, des ongles taillés en griffes et une informe crinoline. Je me représentais en même temps un de nos bons provinciaux de la steppe franchement débarqué à Paris et trottillant misérablement après cette ville poupée vénale. Je le vis, tâchant de cacher sa gaucherie sous un air de grossièreté, grasseyant, parlant en fausset, s'efforçant d'imiter les façons des garçons de Véfour, faisant des courbettes et des platitudes. Saisi de dégoût, je me dis « Ah, c'est pas ici qu'Elie sera jalouse !» Cependant, je remarquais que nous commencions à descendre. Paris envoyait à notre rencontre tous ses bruits et toutes ses odeurs. « Arrête, » dis-je à Elie, « est-ce que tu ne trouves pas qu'on étouffe ici ?»« C'est toi-même qui as voulu venir à Paris. »« Oh bien, j'ai eu tort, je change d'idée. » « Emporte-moi loin d'ici, Elie, je t'en prie. »« Tiens, voici justement le prince Koulmametov qui trotte sur le boulevard et son ami Serge Varaxine qui lui fait signe de la main et lui crie. « Ivan Stefanitch, allons touper. J'ai organisé Guy Gobroche en personne. »« Emmène-moi, Elie, loin de ma bille, de la maison dorée, loin du Jockey Club. » Loin des soldats au front rasé de leurs belles casernes, loin des sergents de ville avec leurs impériales au menton, loin des verres d'absinthe trouble des joueurs de domino et des joueurs à la bourse, des rubans rouges à la boutonnière de la bille et à la boutonnière du paletot, loin de monsieur de Foy, inventeur de la spécialité des mariages, loin des consultations gratuites du docteur Charles Albert, loin des cours de littérature et des brochures gouvernementales, loin des comédies parisiennes, des opérettes parisiennes, des politesses parisiennes et de l'ignorance parisienne. Partons, partons, partons. Regarde en bas, me dit Élise. Déjà, tu n'es plus au-dessus de Paris. J'ouvris les yeux. En effet, une plaine sombre, sillonné çà et là de lignes blanchâtres tracées par les routes, fuyait rapidement au-dessous de nous, et loin l'horizon, tel que la lueur d'un immense incendie, s'élevait vers le ciel la réverbération des innombrables lumières éclairant la capitale du monde. La manche d'hélice tomba de nouveau sur mes yeux. De nouveau, je perdis connaissance, puis le nuage se dissipa. Qu'est-ce là ? Quel est ce parc avec des allées de tilleuls taillées en murailles, des sapins isolés qui ressemblent à des parasols, des portiques et des temples dans le goût pompadour, des statues de tritons rococo et des nymphes dans le style du Bernin au milieu de bassins bizarrement découpés, entourés de balustrades, de marbre enfumé ? Serait-ce Versailles ? Non, non, ce n'est pas Versailles. Un petit palais, à l'architecture également rococo, se détache sur un massif de chênes touffus. La lune est un peu terne, voilée par une légère brume. On dirait que sur le sol s'étend une mince couche de fumée. L'œil ne peut deviner ce que c'est. Est-ce le reflet de la lune ou bien une vapeur ? Plus loin, sur un des bassins, flotte un cygne endormi. Son dos allongé me rappelle la neige de nos steppes raffermies par la gelée. Çà et là, des vers luisants brillent comme des diamants au milieu du gazon et sur les socles des statues. « Nous sommes près de Mannheim, » dit Elise, « et voici le parc de Schwetzingen. »« Ah, nous sommes en Allemagne, » pensais-je, et je prêtai l'oreille. Tout était muet, sauf une source solitaire et invisible qui tombait dans une vasque. Il me sembla que l'eau répétait toujours ces mêmes mots, « là, là, toujours là ». Au milieu d'une allée, entre deux murailles de verdure, j'aperçus un gentilhomme en habit galonné, talons rouges, manchettes arrondies, l'épée battant les mollets, qui donnait la main avec une grâce exquise à une belle dame en panier frisé, poudré à frimas. Pâles et étranges figures. Je veux les voir de plus près, mais elles disparaissent aussitôt, et je n'entends que le babillement incessant de la source. « Ce sont des rêves qui se promènent, » me dit Ellis. « Hier, on pouvait voir bien autre chose, beaucoup de choses. Cette nuit, les rêves eux-mêmes fuient les regards humains. Allons, allons. » Nous nous élevâmes et nous mîmes à voler si droit que je ne sentais pas le moindre mouvement et que tous les objets au-dessous de nous semblaient accourir à notre rencontre. Des montagnes sombres, dentelées, couvertes de bois, croissaient, fuyaient sous nos yeux, suivies par d'autres montagnes avec leurs ondulations, leurs ravins, leurs clairières, leurs points lumineux sortant des chalets endormis au bord des ruisseaux. Et toujours aux montagnes succédaient d'autres montagnes. Nous étions au milieu de la forêt noire. Toujours des montagnes, toujours des forêts, d'admirables forêts, vieilles mais vigoureuses. La nuit est claire. Je distingue toutes les espèces d'arbres, surtout les hauts pins aux troncs droits et blancs. Par moments, la lisière des bois se montre des chevreuils. Élégamment, campés sur leurs jambes menues, tournant la tête avec grâce, ils font le guet, dressant avec vigilance leurs fines oreilles. Les ruines d'un donjon se mêlent en rochers nus et lavent tristement leurs dentelures ébréchées. Au-dessus des vieilles pierres oubliées, scintille paisiblement une étoile. D'un petit lac noir sort comme une plainte mystérieuse la note cristalline des crapauds se répondant en tierces. D'autres sont prolongées, mélancoliques comme les frémissements de la harpe, éolienne arrive jusqu'à moi. Nous sommes dans le pays des légendes. Ici encore, cette mince vapeur rasant la terre que j'avais remarquée à Schwetzingen s'étend de tous côtés. C'est dans les vallons surtout qu'elle est le plus intense. J'en compte 5, 6, 10 nuances distinctes sur les versants des montagnes, et sur cette vaste et monotone étendue règne paisiblement la lune. L'air est vif et léger. Je me sens léger moi-même et singulièrement calme. « Élise, dis-je, tu dois aimer ce pays. »« Moi, je n'aime rien. »« Comment, pas même moi ?» « Ah oui, toi !» répondit-elle nonchalamment. Je crus sentir que son bras me serrait avec une force nouvelle. « en avant !» s'écria-t-elle avec une sorte d'emportement froid. Un cri éclatant et prolongé comme par roulade retentit inopinément au-dessus de nos têtes et se répète aussitôt en avant de nous. « C'est l'arrière-garde des grues en marche vers le nord, » me dit Élise. « Joignons-nous à elle, veux-tu ?»«
Oui, volons avec les grues. »
13 puissants et beaux oiseaux rangés en triangle s'avançaient rapidement en agitant à de rares intervalles leurs vigoureuses ailes bombées. Raidissant le col et les pattes présentant leur forte poitrine, ils s'élançaient avec tant d'impétuosité que l'air sifflait autour d'eux. C'était étrange de voir à cette hauteur, si loin de tout être vivant, cette vie énergique et hardie, cette volonté irrésistible. Sans trêve et sans relâche, tout en fendant victorieusement l'air, les grues échangeaient de temps en temps quelques cris avec leurs camarades à la pointe du triangle. Il y avait quelque chose de fier et de grave, comme un sentiment de confiance inébranlable dans ces cris retentissants, dans cette conversation aérienne. Nous volerons jusqu'au bout, malgré la fatigue, semblait-elle se dire, en s'encourageant d'une l'autre. Et il me vint à l'esprit qu'en Russie, et dans le monde entier, il n'y a que peu d'hommes qui ressemblent à ces oiseaux. « Maintenant, nous volons en Russie, » me dit Élise. Oh, ce n'était pas la première fois que j'en faisais la remarque. La plupart du temps, Élise connaissait ma pensée. « Veux-tu changer de route ?» me demanda-t-elle. « Changer ? Non, je viens de Paris. Porte-moi à Pétersbourg. »«
Maintenant ? » ?»«
Oui, tout de suite. Seulement, couvre-moi de ta manche, de peur du vertige. » Élise étendit la main, mais avant que le brouillard m'enveloppât, je sentis sur mes lèvres le contact de ce dard émoussé dont j'avais déjà éprouvé la molle piqûre. « Garde à vous ! » Ce cri prolongé retentit à mes oreilles. « Garde à vous !» répondit-on dans le lointain d'un effort désespéré.
Garde à vous!
Le cri expira quelque part au bout du monde. Je me secouai. Une grande flèche dorée se dressait devant mes yeux. Je reconnus la forteresse de Pétersbourg. Pâle nuit du Nord. Mais est-ce la nuit? N'est-ce pas plutôt un jour blafard et malade? Je n'ai jamais aimé les nuits de Pétersbourg. Mais cette fois, j'en fus presque effrayé. Le contour des lys avait complètement disparu, dissous, fondu comme un brouillard matinal par le soleil de juillet. Et cependant, je continuais à voir distinctement mon corps, lourdement suspendu dans l'air à la hauteur de la colonne d'Alexandre. Ainsi nous voilà à Pétersbourg. C'est bien cela. Ces rues désertes, larges, couleur de cendre, ces maisons gris blanchâtres, jaunes grisâtres, gris lilas, couvertes de stucs éraillés, avec leurs fenêtres enfoncées dans le mur, leurs enseignes de couleur criarde, leurs auvents en fer au-dessus des perrons, les sales boutiques de fruits, les frontons grecs en plâtre, les écriteaux, les auges pour les fiacres, les corps de garde de police. Voici la coupole dorée de Saint-Isaac, la bourse, qui ne sert à rien, et ses bariolages, les murs de granit de la forteresse et le pavé en bois tout brisé. Je reconnais ces barques chargées de foin et de fagots. Je retrouve ces senteurs de poussière, de choux, de nattes, d'écorces et d'écuries, ces portiers pétrifiés devant leurs pelisses, ces cochers de louage qui dorment ratatinés sur leurs vieux drotchki. Oui, voilà bien notre palmyre du Nord. Tout est éclairé, tout se dessine avec une netteté qui fait mal au cœur, et tout dort tristement, entassé, au milieu de cette atmosphère trouble mais diaphane. Le rose du crépuscule d'hier soir, ce rose de poitrinaire, n'est pas encore effacé. Il durera jusqu'au matin dans un ciel blanc sans étoiles. Ses reflets tombent en longues raies sur la surface moirée de la Neva, qui murmure et pousse doucement ses flots bleus et froids vers la mer. « Volons !» s'écria Hélice. Et sans attendre ma réponse, elle m'emporta à l'autre rive du fleuve, au-delà de la place du palais, près de la fonderie. Au-dessous de nous, j'entendis des pas et des voix. Dans la rue passait une bande de jeunes gens à la mine fatiguée, qui parlaient entre eux d'un bal de grisette. « Sous-lieutenant Stolpakov 7 !» s'écria tout à coup une sentinelle réveillée en sursaut auprès d'un tas de boulets rouillés. Un peu plus loin, à la fenêtre ouverte d'une grande maison, j'aperçus une jeune personne en robe de soie chiffonnée, les bras nus, les cheveux dans une résille de perles, une cigarette à la bouche. Elle lisait dévotement un livre. C'était un volume dû à la plume d'un juvénal très moderne. « Oh, volons-nous bien vite !» dis-je à Hélice. En un instant, les petits bois de sapin rabougris et les marais moussus qui environnent Pétersbourg avaient fui au-dessous de nous. Nous nous dirigions droit vers le sud. Le ciel et la terre devenaient peu à peu de plus en plus sombres. Nuit maladive, jour maladif, cité maladive, nous laissâmes tout loin en arrière. Nous volions plus lentement que de coutume et je pouvais suivre de l'œil les changements qui par degrés se manifestaient sur ma terre natale. C'était un panorama sans fin. Des bois, des bruyères, des champs, des ravins, des rivières. De loin en loin, des églises et des villages, puis encore des champs, des ravins, des rivières. J'étais de mauvaise humeur, indifférent, ennuyé. Et si j'étais ennuyé et chagrin, ce n'était pas parce que je volais au-dessus de la Russie, non. Mais cette terre s'est étendue plate au-dessous de moi, tout le globe du monde avec sa population éphémère, chétive, suffoquant de besoins, de douleurs, de maladies, attachée à cette motte de misérable poussière, cette écorce fragile et rugueuse, cette excroissance par-dessus le grain de sable de notre planète, sur lequel a filtré une moisissure ennoblie par nous du nom de règne végétal. Ces hommes-mouches, mille fois plus méprisables que les mouches, leur demeure de boue, les petites traces de leur misérable et monotone querelle, leur ridicule bataille contre l'immuable et l'inévitable. Ah, que tout cela m'était odieux! Mon cœur se soulevait, et je ne voulais plus contempler un tableau si insignifiant, une caricature si triviale. J'étais ennuyé, plus qu'ennuyé. Je n'éprouvais même plus de pitié pour mes semblables. Tous mes sentiments se fondaient en un seul que j'ose à peine avouer, le dégoût, et qui pisait le dégoût de moi-même. « Cesse, murmura Elie, cesse, ou je ne pourrai plus te porter, tu deviens lourd. » « À la maison, lui dis-je du même ton que j'aurais parlé à mon cocher. Vers 4 heures du matin, sortant de dîner chez un de mes amis de Moscou, après avoir causé de l'avenir de la Russie et de ce qu'il faut entendre par « principe de la commune ».« À la maison, lui dis-je. » Et je fermais les yeux. Je les rouvris bientôt. Elie se serrait contre moi d'une manière étrange. Elle me poussait presque. Je la regardais et tout mon sang se glaça. Celui qui a vu un visage humain exprimer inopinément l'effroi le plus vif sans cause apparente, celui-là comprendra mon impression. L'épouvante, la plus poignante terreur contractait, bouleversait les traits d'Elie. Je n'avais encore rien observé de semblable sur un visage vivant. Un fantôme inanimé, une créature surhumaine, une ombre et cette épouvante inouïe. « Elie, qu'as-tu ? » lui demandai-je.
« Elle, c'est elle !» répondit Elie avec effort. « C'est elle !»«
Mais qui, elle ?»«
Oh, ne prononce pas son nom, ne le prononce pas !» balbutia-t-elle précipitamment. « Il faut fuir !» Tout fini et pour jamais. Regarde, la voilà.
Je tournai les yeux dans la direction de sa main tremblante et j'aperçus quelque chose. Oh, quelque chose de vraiment effroyable. Ce quelque chose était d'autant plus effroyable qu'il n'avait pas une forme déterminée. C'était une lourde masse sombre d'un noir jaunâtre, tachetée comme le ventre d'un lézard. Ce n'était ni un nuage, ni une vapeur. Cela s'étendait sur la terre lentement, à la manière d'un reptile. Puis des mouvements énormes, tantôt en haut, tantôt en bas, de grands balancements réguliers rappelaient les battements d'ailes d'un oiseau de rapine s'apprêtant à saisir sa proie. Par moments, cela s'abaissait sur la terre par bonds hideux. C'est ainsi que l'araignée se jette sur la mouche prise dans sa toile. « Mais quelle es-tu, masse épouvantable ?» À son approche, je le voyais et je le sentais. Tout était saisi d'engourdissement. Tout tombait en dissolution. Un froid vénéneux et empesté se répandait alentour, et à la sensation de ce froid, le cœur se soulevait et les yeux cessaient de voir. Les cheveux se hérissaient sur la tête. C'était une force en mouvement, une force insurmontable que rien n'arrête, qui, sans forme, sans vision, sans pensée, voit tout, sait tout, aussi ardente que l'oiseau de proie à saisir sa victime, aussi rusée que le serpent, et comme lui léchant et égorgeant sa proie de son aiguillon de glace. « Elie, Elie !» m'écriai-je en frissonnant. « C'est la mort, c'est elle !» Le son plaintif que j'avais entendu déjà sortit des lèvres d'Elis. Mais cette fois, c'était plutôt l'accent du désespoir humain. Nous précipitâmes notre vol qui devint désordonné. Tour à tour, Elis s'élevait et plongeait dans l'air, tournant sans cesse et changeant de direction à la manière d'une perdrix blessée ou comme celle qui cherche à éloigner le chien de chasse de sa couvée. Et cependant, de cette masse horrible, se détachaient de longs tentacules, grêles et hideux comme ceux des polypes, s'allongeant à notre poursuite, étendant vers nous des espèces de griffes. Un spectre gigantesque monté sur un cheval pâle parut tout à coup dans le ciel. Elise redoublait ses efforts désespérés. « Oh, elle a vu, c'en est fait. Je suis perdue !» s'écriait-elle au milieu de sanglots entrecoupés. « Hélas, malheureuse, j'aurais pu. La vie eût été pour moi. Et maintenant, anéantie, anéantie. » En entendant ces derniers mots à peine articulés, je perdis connaissance. Quand je revins à moi, j'étais étendu à la renverse sur le gazon, et dans tous mes membres, je ressentais une douleur sourde comme à la suite d'une chute violente. L'aube paraissait, et les objets étaient déjà distincts. À quelque distance de moi, une route bordée de petits saules passait le long d'un bois de bouleaux. Ce lieu m'était connu. Je commençais à me rappeler tous les événements de la nuit, et je frissonnais en pensant à l'horrible apparition qui s'était présentée à mes yeux. « Mais pourquoi ?» me disais-je. « Pourquoi Elise a-t-elle été si effrayée ? Est-elle, elle aussi, soumise à son empire ? Peut-être n'est-elle pas trop immortelle ? Peut-être est-elle prédestinée à la destruction, à l'anéantissement ? Mais comment est-ce possible ?» Un faible soupir se fit entendre auprès de moi. Je tournai la tête. À deux pas de moi, gisait, étendue sur l'herbe, une jeune femme sans mouvement, vêtue d'une longue robe blanche. Ses longs cheveux étaient épars et une de ses épaules découverte. Sa main gauche était derrière sa tête, l'autre reposait sur sa poitrine. Ses yeux étaient clos, et sur ses lèvres j'aperçus comme une légère écume rouge. Était-ce Elise ? Mais Elise était un fantôme, et devant moi était une femme en chair et en os. Je me traînai vers elle, et me penchant sur son visage, « Elise, lui dis-je, est-ce-toi ? » Aussitôt, avec un lent frisson, ses paupières s'ouvrirent et ses grands yeux noirs se fixèrent sur moi. J'étais comme transpercé, imbibé de son regard, et presque au même moment, sur mes lèvres, se collèrent des lèvres chaudes, douces, mais avec une odeur de sang. Je sentis son sein brûlant pressé sur ma poitrine, tandis que ses bras s'enlaçaient autour de mon cou. « Adieu, adieu pour toujours !» dit-elle d'une voix mourante. Et tout disparut. Je me levai, chancelant comme un homme ivre, et je cherchai longtemps autour de moi, tout en me passant à chaque instant les mains sur le visage. Enfin, je me retrouvai sur la route de N, à deux verstes de ma maison. Le soleil était levé lorsque je regagnai mon appartement. La nuit suivante, j'attendis, et non sans terreur, je l'avoue, l'apparition de mon fantôme. Mais il ne revint plus. Une fois, j'allai la nuit sous le vieux chêne, mais je ne vis rien d'extraordinaire. Je ne regrettais guère ces entrevues étranges. Longtemps, j'ai médité sur mon aventure. Je m'assurais que la science ne pouvait l'expliquer et que les légendes et les traditions ne rapportent rien de semblable. En effet, qui était Elise ? Une apparition ? Une âme en peine, un malin esprit, un vampire. Souvent, il m'a semblé qu'Elise était une femme que j'avais connue autrefois. J'ai fait des efforts inouïs pour me rappeler où je l'avais vue. Une fois, aujourd'hui, dans ce moment même, je me souviens où. Non, tout se confond dans ma mémoire comme dans un songe. Oui, j'ai longtemps réfléchi là-dessus. Et ce qui me surprendra personne, je n'en suis pas plus avancé. Demander conseil à mes amis, je n'ai pu m'y décider, de peur de passer pour fou. Enfin, je pris le parti de n'y plus songer, et au vrai, j'avais bien d'autres affaires en tête. D'un côté est venue l'émancipation des serfs, avec les arrangements de propriété, D'un autre côté, ma santé est gravement altérée. Je souffre de la poitrine, j'ai des insomnies, une toux sèche. J'ai beaucoup maigri. Mon visage est pâle comme celui d'un mort. Le docteur assure que mon sang est appauvri. Il appelle mon état maladif une anémie. Il m'envoie à Gastein. Mon homme d'affaires jure que sans moi, il ne saura s'arranger avec les paysans. Oh, ma foi, qu'il s'arrange! Mais que signifient des sons parfaitement distincts et clairs? Les sons d'harmonica que j'entends toutes les fois qu'on parle devant moi de la mort de quelqu'un. Ils deviennent de plus en plus forts, de plus en plus éclatants. Et pourquoi ce frisson si pénible à la seule pensée de l'anéantissement?